Frères et sœurs, les amis, en ce quatrième dimanche de carême, nous poursuivons notre montée à Jérusalem. Alors, j'aime beaucoup cette expression de l'Écriture, parce que monter, ce n'est pas descendre, hein, on est bien d'accord. Autrement dit, l'effort n'est pas le même. Lorsqu'on descend une colline ou une montagne, on est dans la retenue, tandis que lorsqu'on monte et on gravit une montagne ou une colline, eh bien, on essaye de maîtriser à la fois son effort et surtout de le dépasser pour arriver au but. Alors j'aimerais rappeler rapidement le contexte dans lequel on se trouve. Jésus arrive à Jérusalem autour de la fête des tentes, une fête justement imprégnée de l'attente fervente et impatiente du Messie. Pourquoi ? Parce que la toile de fond, à mon sens, la plus importante, et il faut se mettre à la place des contemporains de Jésus, pour eux, tout le problème est de savoir qui est véritablement ce personnage qui est là en face d'eux, dans le temple, et qui va prendre la parole. Est-il véritablement l'envoyé du Père ou est-il un imposteur? Voilà la question. Il faut quand même de temps en temps se mettre à la place des personnes qui se posent des questions. Alors, on sent très bien que le climat, peu à peu, se dégrade. Et j'allais dire presque que nous assistons en un premier temps dans ce texte à une sorte de dialogue de sourds. Le Seigneur Jésus-Christ tente de faire comprendre à ses adversaires, souvenons-nous que dans les évangiles précédents et surtout ceux de la semaine, il nous a été dit que plusieurs fois on a voulu précipiter Jésus en bas de la colline et le jeter dans le précipice, c'est-à-dire tout simplement l'éliminer. Donc on sent bien qu'il y a une tension et des exaspérations dans le peuple, surtout des autorités de Jérusalem. Et bien évidemment, le Christ, avant cet épisode, avait guéri un infirme le jour du sabbat. Et on sait très bien que la loi de Moïse interdisait de faire quoi que ce soit le jour du sabbat, puisque c'est le jour du repos intégral. Alors, les personnes et surtout les autorités se disent « Mais pour qui se prend-il, celui-ci ?» Hein ? Pire encore, à propos de la guérison dont je faisais allusion tout à l'heure, un jour de sabbat, Jésus a osé dire à ses adversaires « Cessez de juger selon les apparences », ce que nous rappelle la première lecture que nous avons entendue à juste titre. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Ben, dire des phrases pareilles, c'est se prendre au moins pour Dieu lui-même ou le porte-parole de Dieu, et nul ne peut représenter Dieu. Donc on voit bien que le procès du Seigneur se profile à l'horizon. Alors la rencontre entre Jésus et l'aveugle, dont je rappelle que le mot Siloé veut dire envoyer, se déroule en trois temps. Le premier temps, Jésus va prendre de la boue, va lui mettre sur les paupières, sur les yeux. Et là, nous avons ce très beau geste que Christ reprend de son Père, le geste créateur. Dieu est le potier de sa création. Et là, c'est exactement la même thématique. Dieu avait modelé l'homme avec la poussière du sol. Et c'est exactement ce qui se passe. Deuxième temps, l'aveugle est envoyé à la piscine de Siloé. Et c'est là que la guérison va s'opérer. Et le troisième temps, c'est la deuxième rencontre avec ce personnage, seconde entrevue, où cette fois Jésus va ouvrir l'aveugle à une autre réalité, à une autre lumière, celle de la foi. Alors n'oublions pas que lors de la création aussi, Dieu avait fait deux gestes, il avait modelé l'homme, je viens de le rappeler, avec la poussière du sol, comme il avait modelé tous les animaux. Puis, dans l'homme seul, il avait insufflé un souffle de vie. C'est ça qui est très beau. Il n'y a pas simplement la création en tant que potier, mais encore faut-il donner la vie, insuffler la vie à ce que l'on vient de créer, tout simplement. C'est là, me semble-t-il, dans cette conjugaison de ces deux précisions, que l'œuvre de Dieu s'opère, tout simplement. Alors bien sûr, dans ce geste, Jésus vient encore d'aggraver son cas. Et les discussions, on le voit bien dans le texte, sont assez fortes, continuent et se poursuivent. Guérir un aveugle, c'est de l'ordre d'un acte de Dieu. Je me permets ici de faire un rappel de l'Écriture dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Dieu confia à Moïse ceci, « Je ne peux pas, je ne sais pas parler », avait dit Moïse, et Dieu lui avait répondu, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd ? Qui rend voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, le Seigneur ?» Donc, comme chaque fois, nous voyons dans l'Ancien Testament eh bien, la préfiguration, comme en filigrane, de tout ce qui va se dérouler, je vous le rappelle sans cesse, se dérouler dans le Nouveau Testament. Par cet acte, Jésus vient tout simplement de prouver qu'il est bien la lumière du monde et qu'il est bien ce Messie, cette lumière qui illumine tout homme par sa venue dans le monde. Alors, on sent très bien que à la fois les autorités et le peuple qui est ici présent n'a pas le cœur prêt à entendre et à écouter tout cela, malheureusement. Et les cœurs se ferment. On peut imaginer aussi qu'il y avait la jalousie et qu'il y avait aussi une sorte de haine et de rejet dans le contexte qui est celui que j'ai rappelé tout à l'heure. Alors, frères et sœurs, nous n'allons pas mettre de la boue sur les yeux de Julien et Pascaline, de nos deux catéchumènes que nous portons dans notre prière avec tous ceux et celles qui se préparent à recevoir le baptême dans la Sainte Nuit de Pâques ou à l'aurore du jour de Pâques, mais tout simplement, ce texte est proposé dans le cheminement des catéchumènes justement pour rappeler que ce qu'ils sont, ce que nous sommes, eh bien, nous le sommes par pure gratuité de Dieu. Nous sommes, nous aussi, façonnés par le potier qui est Dieu. Il a ouvert nos cœurs, très spécialement le jour de notre baptême, qui est l'illumination de chacun et chacune d'entre nous, puisque au jour du baptême, eh bien, nous avons revêtu le Christ vivant et ressuscité. Amen.